Cube Radio. La chronique juridique de Nada Boumefta.
C'est l'heure de retrouver Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
Bonjour Vincent.
On a beaucoup parlé dans les dernières années là de violences sexuelles. On retrouve ça sur les réseaux sociaux beaucoup aussi, différents types de dénonciations, ce qui amène une explosion, du moins les dénonciations qui ont bondi, ce qui amène quand même son lot de défis pour le milieu.
Ouais, l'autre défi autant pour les autorités, donc les policiers, mais évidemment pour les proches, les parents, les écoles et le système judiciaire qui se voit accueillir finalement un volume important. Je tiens quand même à mentionner que ce phénomène-là des réseaux sociaux ou le phénomène, par exemple, #MeToo qu'on a connu, a eu quand même un effet positif justement en expliquant peut-être plus et en dénonçant un peu plus les situations de violence conjugale, mais également à caractère sexuel, et qui a ouvert cette porte-là aux jeunes à en parler plus, donc c'est moins tabou, et à dénoncer lorsqu'ils vivent ce type de situation-là. On peut pas être contre cet effet-là. Le penchant de ça et le pendant, c'est aussi cette minimisation ou cette, comment je peux dire ça, comment les jeunes prennent ça un peu plus à la légère et ont cette facilité-là à commettre des crimes justement via les réseaux sociaux comme le partage de d'images intimes, par exemple, ou le harcèlement ou l'intimidation, qui voit apparaître finalement un boom et une extension qu'on n'avait pas auparavant lorsque c'était plus des gestes qui se faisaient sur le terrain. Et l'autre chose, c'est qu'on voit des jeunes, mon Dieu, du primaire, Vincent, qui se retrouvent dans des situations de viol collectif, de partage d'images intimes. C'est assez choquant.
Est-ce que le milieu policier, le milieu justement judiciaire est capable de suffire à la demande? Parce qu'on comprend que si les forces policières n'ont pas augmenté beaucoup, est-ce que là, de se retrouver avec des piles de dossiers, de plaintes, ça fait que les dossiers un peu plus légers, mais qui sont tout aussi importants d'être traités, sont mis de côté, par exemple?
Ça, j'ose croire que non. Toutes les plaintes sont traitées de la même façon, même s'il y a un volume plus important. Je tiens quand même à souligner que les effectifs policiers ont créé souvent des équipes particulières spécialisées dans les domaines. Donc, en matière de crimes, par exemple, sexuels contre les mineurs, en matière de violence conjugale, on voit des équipes qui vont se créer pour justement offrir un meilleur service d'écoute, mais aussi d'enquête dans ce type de situation-là, bien monter les dossiers avant de les transférer au DPCP. Puis prendre la voie des tribunaux judiciaires criminels. Maintenant, je pense qu'il y a tout un travail en amont qui devrait se faire, surtout sachant que le phénomène existe, qu'il est maintenant documenté. On parle quand même d'une augmentation, Vincent, en 2020-2021 de 42% de ces crimes-là et des dénonciations. C'est quand même beaucoup, là. On parle pas de 2-3% de plus. Alors, voir aussi où est-ce qu'on peut aller à la racine, à la source pour travailler le tout peut-être de façon plus préventive. Je tiens à mentionner aussi puis à féliciter, entre autres, une démarche qui a eu lieu en région qui s'appelle Sexto. Donc, les policiers vont à la rencontre des jeunes dans les écoles, même primaires, pour parler de ça. Je pense que d'avoir plus de ce type d'informations-là auprès des jeunes aiderait aussi à prévenir ce type de crime-là, puis surtout à moins minimiser ce type de gestes.
Oui, parce que ça prend de la prévention aussi, entre autres, parce que je me semblais avoir vu des cas, tu parlais de jeunes du primaire, le transfert de photos intimes à cet âge-là, en plus, ça devient de la pornographie juvénile comme instantanément. Est-ce qu'on peut être accusé, même mineur, est-ce que ça en ajoute au niveau judiciaire pour des jeunes qui sont accusés alors qu'eux sont mineurs et qu'ils ont transféré des images de mineurs?
Alors absolument, ils peuvent être accusés au criminel d'être en possession de pornographie juvénile et de partage d'images intimes. Donc c'est pas parce que nous-mêmes on est mineurs qu'on est sauf, on tombe dans la catégorie des délinquants juvéniles. Donc il y a une catégorie criminelle pour ces jeunes-là. C'est sûr que la justice criminelle des jeunes au niveau adolescente est différente en ce sens que on va vouloir plus les encadrer, on va vouloir plus comprendre qu'est-ce qui les a poussés à faire ça, les aider à ne pas recommettre ces crimes-là. Mais oui, ça peut valoir des sentences puis des conséquences sérieuses dans la vie d'un jeune, même si celui-ci, effectivement, est en bas de 18 ans. Maintenant, en tant qu'adulte, il y a quand même des conséquences sérieuses, dont des peines minimales qui sont attachées à ça. Alors, faut bien faire attention, mais toutes ces histoires-là de Snapchat et Instagram, même si c'était là que pour 24 heures, c'est un partage quand même. Et si on se retrouve avec des images comme ça, le téléphone cellulaire, ben c'est illégal également.
Retour sur un dossier d'hier de crime haineux. Il y a eu des développements.
Oui, je voulais en parler parce qu'on en avait parlé un peu plus tôt en journée. Il y a eu un article par la suite d'un de nos collègues à Cube et au Journal de Montréal. La police, finalement, rappelons juste brièvement les événements, il s'agit d'une famille d'origine pakistanaise qui sortait de leur driveway, qui se serait faite insulter par un piéton en ce sens qu'on lui aurait dit bon de retourner chez eux, finalement basé sur leur ethnicité.
C'était
se
filmé.
Serait senti visé. Exactement. Et c'est là où la donne change. Et encore une fois, j'invite les gens à documenter le plus possible. C'est sûr que quand on vit ce type de situation, on n'a peut-être pas le réflexe de sortir notre téléphone puis de dire « je vais filmer ça ». Mais c'est quelque chose qui a certainement aidé. Ils ont été rappelés par le SPVM, qui ont une unité depuis 2016, qui travaille sur les crimes haineux, mais également les incidents haineux. Il y a quand même une distinction importante à faire entre ces deux aspects-là. Et ils ont donc ouvert une enquête pour voir ce qu'il en était, parce qu'à la base, ils avaient rejeté le tout en mentionnant qu'il n'y avait pas eu de menace de mort, il n'y avait pas eu de voie de fait, donc ils ne pouvaient rien faire. Mais on tient compte quand même de tout ça pour voir s'il n'y a pas matière à porter des accusations criminelles ou soumettre ça à un autre tribunal.
Des menaces contre un journaliste qui mène à des accusations.
Je voulais qu'on en parle, évidemment, dans le domaine des médias, ça nous a quand même frappé, mais aussi dans le monde des politiciens. Hein, on en a beaucoup qui ont subi des menaces en ligne, du harcèlement en ligne. Plusieurs pensent que parce qu'ils sont derrière un écran, ben, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis de penser ce que je veux, et de le partager. Puis ben, Vincent, t'as décidé d'être une personnalité publique, fait que t'assumes que ce que je t'écris, ben...
qu'on puisse nous menacer de mort, là.
Ben, c'est ça. Alors ça, c'est la ligne, évidemment, ne pas dépasser. On a le droit à notre opinion, on peut écrire effectivement, et je le mets en guillemets, ce qu'on veut sur les réseaux, mais il y a quand même une limite à ça, et c'est bien important de le dénoncer également quand on le vit. Certains politiciens l'ont fait, et cette fois-ci, une ancienne journaliste de La Presse en a dit que c'était assez, suite à une multitude de messages envoyés par cet individu-là, autant sur son adresse professionnelle que via les réseaux sociaux, donc est accusé aujourd'hui d'harcèlement, mais également de menaces de mort envers elle. C'est quand même pas à prendre à la légère, surtout quand on est une personnalité qui peut être reconnue, par exemple, dans la rue, puis tu sais, se retrouver ciblé effectivement et sentir sa sécurité atteinte du fait qu'on peut être reconnu et que les gens nous écrivent et qu'on peut être retraçable aussi sur les réseaux. Donc, c'est pas parce qu'on est derrière les écrans qu'on est protégé ou qu'on ne peut pas être accusé au criminel. Je tenais à le mentionner puis en parler aujourd'hui, donc faire attention à ça. D'un côté, encore une fois, un travail de prévention et de l'autre, de protection lorsque ça nous arrive.
Et je voulais revenir à un dossier d'hier. On n'a pas pu s'en parler. Donc hier, une histoire de violence conjugale où un homme va demeurer détenu.
Oui, donc une histoire qui a quand même été médiatisée beaucoup. Il a même passé à Tout le monde en parle. On en a parlé parce que ça fait partie de cette vague-là de dénonciation de violence conjugale. Malheureusement dans les épisodes aussi de féminicide, donc vraiment ça a ébranlé notre société québécoise. Cet individu-là, donc, qui a fait face à une sentence de détention ferme, demandait cette semaine sa remise en liberté conditionnelle, parce que quand on n'a pas d'antécédent judiciaire, quand on commence à purger sa peine ferme, on a cette possibilité-là où un sixième de la peine de demander qu'on soit remis en liberté. Ensuite, ça va au tiers de la peine, puis aux deux tiers de la sentence qui nous a été imposée. Il était donc au début du processus et normalement, mais ça, il faut quand même donner du gaz. Il faut montrer pourquoi est-ce que cette sentence-là, finalement, ne devrait pas être purgée au complet. Pourquoi est-ce qu'on serait un individu qui serait prêt à réhabiliter notre société? Parce que c'est quand même un principe important. Mais dans ce cas-ci, il a été refusé et la commission a jugé qu'il avait encore un trop haut risque finalement de récidive si on le remettait en liberté en ce moment et que ça brimerait donc la confiance du public et c'était pas dans l'intérêt du public d'agir ainsi. Il restera donc derrière les barreaux encore pour une certaine période de temps.
On termine avec un médecin de chez nous qui fait face à de nouvelles accusations.
Oui, je tiens à mentionner, bon, un médecin de chez nous, mais il n'est pas dans l'ordre des médecins du Québec. Il pratique plutôt en Ontario. Les faits sont assez nébuleux. On n'ira pas trop dans les détails non plus parce que ça risque fort probablement d'être des dossiers qui vont se retrouver devant jury. Un médecin qui pratiquait donc en pleine pandémie et ce serait une question de médication en rapport avec la COVID, mais il aurait perdu 5 patients autour de la même journée à laquelle il aurait été arrêté pour un autre cas de décès. Il est accusé de meurtre quand même premier degré. C'est assez rare qu'on voit des cas comme ça de médecins qui sont accusés de meurtre. Généralement, bon, il peut y avoir des erreurs médicales, certes, il peut y avoir des problèmes aussi, certes. Ça va plus tomber dans la banque de déontologie au niveau de leur rôle professionnel ou de poursuite civile. Mais là, on fait face vraiment à des accusations aux criminels sérieuses, donc le crime le plus grave au sens du code criminel. Lui prétend par contre être innocent, plaide ça haut et fort. Alors on verra là, quelle sera sa défense ou quelle négociation y aura-t-il en fonction de la preuve qui sera présentée. Mais vraiment un dossier à suivre qui risque d'être fort intéressant et peut-être même qui soulèvera des débats quant au traitement sur la COVID.
Oui, tu pourras suivre ça pour nous de près. Merci beaucoup, Nada, à demain.
Merci Vincent, à demain. Au revoir à tous.